sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission sur les chemins de la création. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elsa dans les studios de Divergence et nous allons parler ensemble de création. Et pour ce faire, aujourd'hui, Laurent et Mathis sont avec nous. Bonjour Laurent et Mathis.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Merci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
Ouais, c'est très gentil.
On va commencer par savoir qui vous êtes et si vous voulez vous présenter brièvement et nous dire qui êtes-vous, que faites-vous.
Alors moi je m'appelle Laurent Cantier, je suis comédien principalement et je suis aussi en parallèle auteur de théâtre, metteur en scène et je débute la composition musicale aussi. Voilà.
Yes, super.
Moi c'est Mathis Hartmann, de mon nom d'artiste Eddie Hartmann. Ça fait un an que je suis à Montpellier, j'ai 24 ans, donc je fais tout en indé, je fais des prods, je fais de la musique, la promo et tout ce qui suit, et voilà. Du coup, merci de me recevoir, c'est très gentil.
Est-ce que, Mathis, tu veux nous raconter, par exemple, quand est-ce que la création entre dans ta vie à toi ?
La création, c'est venu très tôt chez moi, depuis que je suis tout petit. J'adore les films de science-fiction, les comics... Jurassic Park, Toy Story, tout genre de choses. J'avais aussi des figurines qui allaient avec et tout. Et j'ai commencé en fait à créer, je pense, des scénarios dans ma tête. À partir de là, je mettais la musique sur mon ordinateur avec mon frère et on faisait des petites bastons de figurines. Le premier forme d'art que j'ai manifesté avec ça, c'est le cinéma. Je voulais faire du stop motion, faire des films d'action. Je voulais être cascadeur, faire plein de choses. Et je pense que c'est le même système, la même approche au niveau de la création qui s'est rapportée en fait à la musique. Donc je pense que c'est quand même des choses qui sont liées, le processus est assez universel.
C'est-à-dire, du coup, comment tu transposes ça, là, les petites figurines, l'envie de cascade, de ciné et la musique, quel est le fil conducteur pour toi entre les deux?
Je dirais une sorte de vision, une envie, une idée, peu importe le nom qu'on met dessus. Et après, voilà, l'envie, enfin, surtout chez moi en tout cas, parce que j'ai été éduqué un peu là-dedans, l'envie de bien faire les choses. Donc essayer de tout mettre en place, à la fois de l'organisation et à la fois de la créativité, je pense, pour faire quelque chose de solide, de quelque chose qui nous plaît. Et voilà, que ce soit dans le cinéma ou dans la musique, il y a des deux. Il faut une part de liberté au niveau de l'expression, mais c'est aussi bien de pas de mettre un cadre, j'aime pas ce mot-là, mais d'essayer d'avoir un peu de discipline pour bien pouvoir exprimer ce qu'on pense. Voilà.
Chouette, merci. Toi, Laurent, tu saurais dire d'où ça te vient ? Où est-ce que ça jaillit en toi, ce rapport à la création ?
Alors moi, je crois que j'ai été un enfant très créatif et avec énormément d'imagination que j'avais du mal à canaliser. Et ça se retournait un petit peu contre moi dans le sens où, du coup, je vivais dans ma tête. Je m'inventais des scénarios dans ma tête. Et par exemple, quand j'étais petit, la première forme de création que j'avais, c'était le dessin. Et j'avais besoin d'écouter de la musique en même temps et de faire les traits de mes dessins en synchro avec la musique que j'étais en train d'écouter. Ça me faisait beaucoup de bien. Et après, j'ai découvert à l'âge de 7 ans le théâtre, qui a été une vraie révélation parce que j'ai découvert qu'on pouvait aussi créer des personnages. Et à partir de là est découlée l'envie de faire des courts-métrages, de créer des histoires et de canaliser cette imagination, de la mettre vraiment sur le papier, quoi, pour la rendre concrète et pour pouvoir aussi la partager avec les autres. Voilà.
Et du coup, c'est intéressant ce truc de dessin et que tu calquais ton trait à la musique que tu entendais, c'est ça ?
Ouais.
Donc il y avait comme une espèce de chorégraphie.
C'est ça. La musique a toujours été très très importante. Moi, quand j'étais petit, mon premier métier, mon métier de rêve, c'était chanteur. Et j'étais passionné, bah, comme pas mal d'enfants à l'époque, parce que je suis plutôt jeune, donc on n'avait que des Disney en VHS. Et moi, j'avais La Belle au Bois Dormant et je me suis posé la question de pourquoi j'étais autant passionné par ce Disney, parce que c'est quand même pas celui où l'histoire est la plus intéressante. Et en fait, c'est la présence de la musique. Quand on le regarde, enfin, quand je le regarde aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, je me dis, mais il n'y a pas une seconde sans musique. Et c'est, en plus, c'est une musique incroyable qui est synchronisée au dessin, comme le faisait à l'époque Disney. Et du coup, je pense que dans ma tête, j'avais envie de reproduire ça, quoi.
Et maintenant, tu as dit tout à l'heure que tu te mettais à produire de la musique, tout ça. Est-ce que tu retrouves un peu les sensations que tu avais quand tu étais petit ?
Ben pas encore, parce que c'est vraiment les balbutiements de ma vie de compositeur. J'en suis au tout début, donc j'arrive pas encore à prendre de plaisir, entre guillemets. C'est vraiment, pour l'instant, très technique. Et j'ai pas encore trouvé la légitimité. Je fais écouter mes sons vraiment dans mon cercle privé. Enfin, ça dépasse pas encore mon appartement, on va dire.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre la musique ?
Bah en fait, moi, je travaille beaucoup sur la comédie musicale au théâtre. Okay. Et j'ai une compagnie dans laquelle je fais des spectacles musicaux. Et il y en a un, c'est un seul en scène que j'avais écrit pour une comédienne et pour lequel j'ai composé une chanson. Alors, c'était vraiment à la guitare avec les quatre accords de base, les seuls que j'arrivais à faire. Et du coup, j'ai composé cette chanson-là et j'ai eu de très bons retours. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, un jour, créer ma comédie musicale complètement originale, texte et livret, quoi. Voilà.
Super. Et du coup, c'est l'envie d'un projet, enfin un projet en particulier, qui t'a amené à la compo, en fait, en disant j'aimerais créer ma comédie musicale de A à Z, texte, musique, etc. Et du coup, bah j'ai déjà l'habitude d'écrire, l'habitude de jouer, j'ai déjà les comédiens, machin. Mais le côté musique, c'est un peu challenge. Je vais apprendre à faire ça parce que je le veux pour ce projet-là.
C'est ça. Bah, en fait, je pense que ça me faisait très peur de composer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me ramène à vraiment une vulnérabilité au niveau artistique. Et je me suis caché derrière cette pièce de théâtre. Je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre une chanson. Et puis, je vais la composer. On va essayer. Mais ça reste un texte de théâtre que j'ai écrit. Voilà, là, je suis dans mes habitudes. Et ensuite, j'ai écrit un jeune public où j'ai composé 5 chansons. Donc le rendu, il n'est pas fifou, je pense que si je le fais écouter à Matisse ou professionnel de musique, ils vont... Voilà. Mais je suis quand même très fier parce que c'est 5 chansons originales de ce spectacle jeune public. Mais en fait, j'ai toujours eu besoin de me cacher un petit peu derrière le théâtre pour me dire, allez, je fais un petit peu de musique, jusqu'à me dire, mais en fait, tu as envie aussi de créer de la musique, donc bah, fais-le, quoi.
Voilà. C'est une question de légitimité ?
Complètement, oui.
Ouais. Bah, t'as un peu un syndrome de l'imposteur ?
Complètement.
Tu peux en parler ?
Complètement pas. Non.
Est-ce que Mathis, toi, ça résonne pour toi, cette espèce de vulnérabilité à des endroits comme ça dans ta création, de légitimité, de vulnérabilité, de fragilité, de te dire ok, j'ai pas ça, il me faudrait ça, oh non, 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 oh si, 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 enfin comment ça marche,
Je rejoins vachement sur ce qu'il dit. Je rejoins vachement sur ce qu'il dit. Il faut. On a tendance très facilement, en fait, comme tu disais, à se cacher un petit peu, forcément, parce que c'est quelque chose qui est rapport à nous, c'est l'art qu'on crée, donc ça vient de nous, et c'est quelque chose de très vulnérable, qu'on le veuille ou non, même si on essaie de se cacher à travers plein de choses qu'on fait. Donc au départ, on a les premiers réflexes de se cacher. Moi, c'est pareil, je faisais pas écouter beaucoup ma musique, j'aimais pas du tout ce que je faisais, et j'aimais bien le faire indirectement, c'est-à-dire qu'en soirée, je mettais un petit peu de musique d'autres gens, et puis d'un coup... Et puis je vois que ça bouge un peu la tête. Ok, c'est cool.
Je lis ça mais sans dire que c'est moi.
Mais j'osais jamais dire ouais, c'est moi et tout machin. Et en fait, je pense que le plus dur et le but un peu de l'artiste aussi, c'est de casser justement cette approche-là, d'être le plus direct possible. Et c'est là qu'on est le plus large, mais c'est tellement complexe en fait, parce qu'on avance aussi dans notre vie aussi de tous les jours. On a plein d'autres complexes, des difficultés, plein de choses. Donc il faut. Pardon, je parle trop. Et voilà, il faut essayer de mélanger les deux. Et je rejoins vachement sur ce que tu disais, le fait d'être pas légitime de faire quelque chose parce que peut-être parfois tu viens pas de là ou les autres artistes qui font ça autour ont pas la même histoire. Mais ouais, c'est un combat constant, j'ai l'impression, pour plein d'artistes aujourd'hui.
Et donc, qui ont été les premières personnes à qui tu as osé te livrer et faire écouter ta musique ?
C'était mes potes. J'ai commencé avec un pote. Et j'avais beaucoup d'attentes, en fait. Je me disais, soit ils vont détester, soit ils vont m'idolâtrer. Je savais pas du tout comment, voilà. Et je pense que c'est le fait qu'ils réagissent vraiment naturellement. Je leur ai dit, bon, les gars, j'avais préparé le speech et tout. Ça fait plusieurs temps que je fais ça. Voilà, je fais de la musique, je veux faire de la musique. Ils m'ont dit, ok, c'est bien, c'est cool. Et en fait, ça m'a... une sorte de retour à la réalité, en fait. C'est quelque chose de très personnel, l'art, en fait, qu'on fait. Mais on a quand même besoin de le montrer aux gens. Donc c'est ce rapport-là qui était un petit peu compliqué pour moi au début. C'est voilà, quelle légitimité t'as, vu que ça vient de toi, au final ça intéresse que toi, est-ce que tu peux en parler aux autres et est-ce que ça va les intéresser? Au final c'est des questions qui sont un peu futiles parce que du moment qu'on crée, il y a forcément des gens qui peuvent nous comprendre, quoi.
Et toi Laurent, tes premiers publics, tu peux en parler?
Moi mon premier public c'était ma petite sœur qui a 6 ans de moins que moi et que j'ai utilisé entre guillemets en tant que comédienne dans des histoires. Du coup, on faisait des clips, on faisait des parodies de journal télévisé. Voilà, j'avais, je crois, 9-10 ans. Et du coup, c'est après aussi ma famille. On faisait des petits spectacles à Noël après le repas. On avait préparé des petites scènes de théâtre. Voilà.
Trop bien. Au début de l'émission, Mathis, t'as évoqué le cadre. Que t'aimes pas trop ce mot-là, mais qui se rapporterait plus à la discipline.
Ouais.
Est-ce que, pour vous deux, la discipline, cette espèce de cadre, peut vous aider justement à dépasser ces fragilités, ces vulnérabilités? Comment ça fonctionne pour vous j'ai une idée, je fais un petit truc juste dans mon appart, hop, je le montre tel public, la petite sœur, les potes, machin, puis finalement je le montre au monde entier et ça peut s'étendre comme ça. Donc c'est pas toujours confortable et facile parce que ça nous fait des choses à l'intérieur.
C'est pas grand chose, quoi.
Comment?
Alors qu'au final c'est pas grand chose, c'est juste une création, c'est pas...
Ah ouais, mais c'est tellement les tripes parfois,
ouais.
Enfin, tu vois, c'est vrai que c'est futile.
Parce que tu mets toute ton âme, mais au final c'est quelque chose qui sert pas grand chose en soi.
Carrément, oui.
Enfin, alors que si, totalement, mais...
Il y a cette espèce de paradoxe là, entre le c'est pas grand chose, c'est futile, et en même temps pour nous des fois c'est tellement... Ah ouais, il se passe tellement un monde à l'intérieur, c'est fou. Et du coup, est-ce que la discipline, le cadre, le fait de dire... Est-ce que ça permet un peu une mise en abîme, de se dire ok, là je suis sur mon écrit pendant 3 heures, machin, tac, ok, ça me cadre. Est-ce que ça vous aide, ça? Où est la place de la discipline dans votre création?
Alors moi je suis pas du tout disciplinée, c'est vraiment catastrophique. J'aimerais être ce genre de personne qui dit voilà, j'écris pendant 3 heures, machin. Mais en fait, quand j'écris, moi je vais passer 2 mois à écrire dans ma tête. Je marche beaucoup, donc j'utilise ces sorties là pour faire le tri, voilà, toutes les idées que j'ai, soit les mettre de côté, soit les agrandir. Et du coup après, souvent les spectacles que j'écris, c'est en 2 jours où je me dis bah là aujourd'hui ça y est, j'ai vraiment fait le tri, et du coup je vais écrire pendant 9 heures d'affilée. Ok, j'ai la moitié du spectacle, et le lendemain, ok, bah c'est bon, j'ai fini. Après, il y a forcément un peu de réécriture toujours, mais je ne me vois pas me mettre devant mon ordi, commencer à écrire sans avoir d'abord réfléchi, d'abord faire un premier travail mental, quoi, d'écriture.
Et quand tu écris pendant 9 heures d'affilée, est-ce que tu es plutôt dans un truc de transe? Comment ça se passe?
Ah mais complètement. C'est vraiment l'aboutissement de justement deux mois de travail intérieur, et du coup là je vois ça devient concret, en fait je vois, ouais, les mots s'écrire, et du coup oui, c'est je vois pas le temps passer, quoi.
Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es plus dans ta tête? Est-ce que t'es plus dans ton corps? Est-ce que tu vois les mots? Est-ce que tu vois des images? Comment ça se passe?
Là je suis déjà sur scène, en fait, à ce moment-là.
D'accord.
Je suis vraiment dans ma tête toute la première partie, mais dès que je commence à écrire, ça y est, j'imagine mes comédiens sur scène, j'ai les idées de mise en scène, enfin ça devient vraiment concret.
Et c'est toi qui choisis quand est-ce que tu dis ok, là je le mets sur le papier, ou est-ce que ça vient d'un coup, t'es en train de faire tes courses et tu dis ok, c'est là, faut que j'écrive?
Ouais, c'est exactement ça.
C'est ça, ça vient d'un coup,
ouais.
C'est-à-dire que tu réfléchis tout dans ta tête, et puis d'un coup tu sais pas quand, tu dis ok, c'est là.
Je me mets pas vraiment de limites, sauf quand j'ai des limites, par exemple que je suis associé avec un théâtre et qu'il faut que le spectacle soit prêt à un tel moment, ouais. Mais sinon effectivement c'est ça, c'est une fulguration. C'est des fulgurations.
Ouais, carrément, c'est fulgurant, quoi.
C'est fulgurant, voilà. Ça peut être n'importe quel moment, c'est ah, ça y est, en fait, j'ai fait tout ce travail-là mental, maintenant il faut écrire.
Ah ouais, c'est
pour toi aussi, c'est le cas, Mathis?
Ben non, moi justement, pas trop, c'est pour ça que c'est très intéressant. Moi, j'essaye en tout cas d'être très discipliné. Je le suis un petit peu, bon, j'ai aussi beaucoup d'écart. Mais j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Boulangerie avec un E sur Instagram, qui parle de plein d'essais philosophiques, et qui parlait de ça justement. Il disait que la discipline, Surtout dans l'art, c'est pas forcément quelque chose qui est viable en fait, c'est des résultats qu'on a, et en fait moi c'est un résultat que j'ai grandi dans une famille où on fait beaucoup de sport, qui est très disciplinée. Mon père fait la musculation, mon frère aussi, donc c'est voilà, manger équilibré, tac 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 tac, et en fait moi ça m'a permis de me construire aussi en tant qu'humain, et forcément par de là, ben moi je l'ai retranscrit sur la musique. Et mais c'est pas obligé, ça marche pour moi, mais c'est pas unanime. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas grandi là-dedans, qui ont grandi dans une sphère beaucoup plus ouverte, et qui en fait, comme toi par exemple, ont besoin de tout mettre dans la tête pendant 2 mois, et puis une fois que ça sort. Et voilà, donc la discipline, et pour moi ça reste une sorte de discipline, tu vois, ce que tu fais, le fait, parce que ça reste que tu le mijotes quand même longtemps dans ta tête. Donc ça reste un travail de tous les jours, tu prends du temps pour ça, donc... Pour moi, la discipline, on l'a tous. Moi, j'ai une discipline un peu plus classique, on va dire, faire la musique tous les jours, tout ça, machin. Mais c'est pas du tout obligé. Et justement, moi, j'aime bien essayer de prendre un peu des gens qui ont d'autres systèmes de discipline, on va dire, et de création pour élargir. Parce que voilà, c'est vraiment pas obligé de faire du son tous les jours ou d'écrire tous les jours, en tout cas.
Parce que toi, du coup, ta discipline, ça va être avec des horaires très réguliers, des choses ou alors un quotidien. Ça se passe comment concrètement quand tous les jours, quoi, enfin dans ta vie de tous les jours.
C'est plus un quotidien. C'est pas forcément des horaires, même ouais. Si ça peut marcher aussi. C'est juste que mon cerveau, et j'essaie que mon cerveau soit constamment connecté sur ce truc, sur ce prisme là. Et ça peut aller surtout. Je peux voir une rue, me dire ah ça peut être joli pour faire un clip ou machin machin. J'essaie de toujours avoir le cerveau très stimulé. Et l'avantage aussi que j'ai eu, bien des avantages, c'est que je viens de Limoges, donc une toute petite ville, et il n'y a personne qui fait la musique là-bas, donc j'étais obligé de tout faire. Et ce qui est très bien, c'est que ben là, je suis un peu pluridisciplinaire, même si je suis quand même très mauvais dans plein de choses que je fais, mais j'aime bien les faire. Et ça permet de toujours rester créatif, en fait, et de ne pas m'enfermer dans un son, parce que le problème, quand on a un art... prédéfini, on va dire, de base, comme moi c'est la musique, et bien on se dit ouais, si on fait autre chose que la musique, ça va pas servir à grand chose, sauf que non. Et moi justement, moi, j'aime bien faire des prods, dessiner, je dessine affreusement mal, mais j'ai quelqu'un qui dessine bien, j'aime bien dessiner avec lui, je fais aussi de la rénovation, donc il faut rester créatif en fait, il faut toujours avoir le cerveau qui fonctionne.
Puis en plus c'est assez juste ce que tu dis, parce que tu dis je sais pas le faire, je fais mal, machin, mais en fait c'est aussi en le faisant, il y a des choses où c'est hyper intuitif, c'est hyper chouette, direct, parce que voilà, mais il y a des choses où c'est aussi en faisant que ça évolue et que ça naît, quoi.
Ouais.
C'est un peu le cas pour les enfants d'ailleurs. Les enfants, ils font intuitivement des trucs, ils dessinent, comme c'est exactement ce que tu disais, Laurent, d'ailleurs, que toi t'as commencé par dessiner, etc. Les enfants, ils font les choses de manière hyper intuitive.
Peut-être c'est un exactement truc ça, parce qu'ils n'ont pas mais tous les cadres. Ils ont, je crois que c'est une recherche qui est tombée il n'y a pas longtemps, comme quoi en fait, l'inconscient du bébé est beaucoup moins renfermé par plein de cases, qui fait que quand il dessine, c'est très facile de voir en fait. De voir derrière, donc nous c'est ce qu'on essaie d'avoir, je pense, un peu tous en tant que gens qui font de l'art, c'est d'avoir ce truc très enfantin, très direct, quoi, très très spontané.
De voir derrière, c'est intéressant.
Ouais, voir derrière.
Les enfants, c'est des modèles dans le sens où ils sont vraiment dans l'instant présent, en fait. Ils ont envie de dessiner, ils dessinent, ils ont envie de chanter, ils chantent, et ils sont pas encore parasités par « Ah bah moi je suis en retard sur ce taf-là,
ou alors que moi, voilà, et machin, j'ai pas le bon matériel. »
Voilà, donc oui, c'est enfants m'inspirent beaucoup, moi, dans la création artistique.
Totalement.
Toi aussi, ça te parle, cet enfant?
Ouais, ce rapport. Le moi enfant est très important, prend beaucoup de place chez moi. Mais je parlais des figurines. Chez moi, j'ai plein de figurines, j'en achète encore plein. Donc, j'ai des posters de Spider-Man partout, j'adore ça. Donc, c'est important pour moi, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Mais il faut pas refouler, ouais, l'enfant qu'on est, ça dit quand même beaucoup de choses sur nous. C'est important.
Et d'ailleurs, Mathis, tu voulais nous partager une de tes créations?
Oui.
Mathis, de son nom Eddie Hartmann.
C'est ça.
Est-ce que tu veux nous en parler brièvement
Ouais.
De ce son.
Alors, le son, c'est pas moi qui ai fait la prod, c'est un pote à WAM. C'est le premier projet que j'ai sorti quand je suis arrivé à Montpellier. Et en fait, c'est des sons qui n'étaient pas censés sortir. C'est des sons qui étaient sur mon ordi. Je me suis dit, bah non, j'en ferai rien. Et c'est à force de faire écouter à des gens, à mon entourage, qui m'ont dit, non, il y a un truc à faire et tout. Et je l'ai sorti. Et j'aime bien ce projet en général parce que justement, il est très spontané vu qu'en fait, c'est des sons que j'étais pas censé sortir. Voilà, il y a un truc très très naturel. Et évidemment, c'est un de mes projets que je préfère, quoi. Donc voilà.
Et ça s'appelle comment?
Le projet s'appelle DC Comics. Le son, c'est le son éponyme, le premier, qui s'appelle également DC Comics. Voilà, c'est pas, c'est un petit son ego trip classique.
Et ben c'est parti, on écoute DC Comics de Eddie Hartmann.
Siphon ramène dans le même genre, faut pas la même dope. Faudrait pas qu'on s'amène d'un petit teint bleu. J'pourrais te la faire, arnaque la douille. J'pourrais te la mettre. Voulais me suivre, courais à perdre. Voulais la faire, j'leur fous de la merde. J'passe à l'attaque, m'appelle pour rapper. T'as passé le test pour t'asseoir à la table. Ouais, j'place la barre assez haute. Depuis l'insecte sur la couverture comme masse attaque. Mon pire cauchemar, me faire dévorer par des requins. J'connais deux, trois meufs, des mannequins. Veulent me goûter comme un harlequin. J'arrive le 14, j'pars le 15. Donc fais vite et par le bien. Attiré par le mal et par le bien. Attiré par l'amour et par le gain. Yeah. Je viens d'une ville sombre comme un berceau DC Comics. Je rêve d'avoir des rêves, je rêve de Malcolm X. Même si j'habite à comédie, je ferai pas le comique. Yeah, c'est pas moi qui coupe la prod, mais c'est pas de mon plus comique. Yes, le E, D, le H, you know my name. C'est que de rébar, si on ramène dans le même genre, faut pas la même dope. Faudrait pas qu'on s'amène, t'as un petit teint bleu. J'pourrais te la faire, arnaque la douille. J'pourrais te la mettre, si voulais me suivre, vous pourrez la perdre. Voulais la faire, j'leur fous de la merde. Le E, D, le H, you know my name. C'est que de rébar, si on ramène dans le même genre, faut pas la même dope. Faudrait pas qu'on s'amène, t'as un petit teint bleu. J'pourrais te la faire, arnaque la douille. J'pourrais te la mettre, si voulais me suivre. Courir à perdre, voulais la faire, j'leur fous de la merde.
Merci beaucoup Mathis pour le partage.
Merci à vous.
De ce
très
son.
Gentil.
Qui n'était pas prévu pour nos oreilles de
exactement.
Base, en fait, dans ton processus de création à toi.
C'est ça.
Est-ce que toi, Laurent, t'as des choses aussi qui n'étaient pas prévues, qui... ou des petits morceaux de matière à droite à gauche qui traînent comme ça, et puis un jour, ça se transforme en quelque chose de concret ou pas du tout? T'as pas des vieux fonds de tiroir qui sont pas prévus comme ça?
Non, je crois que, enfin, en tout cas aujourd'hui, à l'âge adulte, tout ce que je commence à créer, il y a vraiment un objectif derrière.
Ok, ça se précise quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Waouh.
Tu crées pas juste comme ça pour rien, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu crées quelque chose ou que tu le mets sur papier, tu sais que ça va être pour quelque chose.
Il faut qu'il y ait un objectif. Ouais.
Wow. Ouais. Ouais, ça c'est mon goal ultime.
Il y a pas de raté quoi. C'est...
J'admire.
Ça va tout droit, c'est trop fort.
Mais en fait non, c'est que il faut vraiment faire le tri dans ma tête parce que j'ai plein d'idées et il y en a certaines, je dis tout de suite non, ça c'est alors soit ça peut être par exemple l'objet d'un le thème d'une chanson, ça va être l'objet d'un spectacle, c'est le thème d'un spectacle, et je fais mon tri comme ça, et du coup il y a des choses que je mets de côté, mais dès que je commence vraiment concrètement à travailler sur quelque chose, je sais où ça va se jouer, je sais ce que ça va être exactement.
Ah, mais comment tu sélectionnes celles que tu vas développer plus tard, tes idées qui vont devenir des œuvres?
En fait c'est celles qui m'animent le plus, qui sont prioritaires. Et parce que la sincérité, c'est vraiment, alors c'est un peu bateau comme phrase, mais sans sincérité, pour moi, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de partage avec le public. Et du coup, j'ai des messages, en fait, pareil, un peu, qui me viennent comme ça. Par exemple, le seul en scène dont je parlais tout à l'heure, c'est une comédienne qui m'a fait la commande d'un spectacle et qui m'a dit, bah voilà, je veux jouer un seul en scène, je veux que ce soit humoristique et je veux que tu l'écrives et que tu me mettes en scène. Et j'ai dit, bah d'accord, mais par contre, laisse-moi choisir le thème. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et là, je me suis dit, bon, bah, le thème, ça va être le cancer. Parce que j'ai perdu mon père de cette maladie-là. Et j'avais besoin de terminer mon processus de deuil avec cette écriture-là. Et je me suis dit, en fait, je vais écrire le spectacle que j'aurais aimé voir au moment où j'ai perdu mon père. Un spectacle qui va faire du bien, en fait. Et comment parler du cancer en étant positif et délivrer un message d'espoir aux gens. Et donc c'est ça qui m'a animé. La comédienne n'était pas ravie parce que elle voulait vraiment plus une comédie vraiment au sens propre, voilà, sans sujet de fond plus grave comme ça. Donc au final, bah, c'est plus elle qui le joue aujourd'hui. Mais Mais du coup...
Et du coup, ça a pu être joué par quelqu'un qui, pour qui ça faisait sens aussi. Donc, le projet a évolué.
Maintenant, c'est joué par ma sœur qui partage mon histoire. Donc,
la fameuse sœur,
Voilà, c'est idéal. Oui, parce qu'on travaille toujours aujourd'hui ensemble. On est dans la même compagnie. Et du coup, c'est magnifique ce qui se passe. Parce que du coup, ma démarche vraiment de délivrer ce message et de faire du bien aux gens, ça fonctionne. J'ai des retours incroyables après le spectacle. Alors, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. C'est souvent dans des petites salles parce que c'est aussi un thème qui fait très peur. Donc, il y a des gens qui refusent de venir le voir. Rien que le mot cancer, ça leur fait peur.
Oui, et puis ça inspire quelque chose d'intimiste aussi. Donc, c'est vrai que les petites salles plus intimistes... peut-être plus délicat.
Oui, bien sûr, et je le comprends tout à fait. Mais c'est vrai que les gens qui viennent, qui osent venir, et ils me disent, enfin, en fait, c'est super positif, en fait, on a la patate après ce spectacle. Je dis, oui, c'était le but, quoi.
Trop bien. Bravo. Est-ce qu'il y a des sujets, Mathis, toi, qui sont importants comme ça, à défendre, des sujets, des thèmes, enfin, des...
Ouais, bien sûr, et je pense encore plus aujourd'hui, là, vu tout ce qui se passe, justement, j'en parlais à Elsa... c'est très choquant ce qui se passe un peu partout et je pense que c'était un droit qu'on avait de s'exprimer sur ce genre de choses et d'essayer de faire quelque chose et là j'ai l'impression que c'est un devoir. Alors moi j'ai pas eu de fait très troublant dans ma vie, dans mon existence, mais j'ai côtoyé des gens qui en ont eu et alors ma musique moi n'est pas censée être politisée, ça reste du divertissement quand même. C'est le principal, mais c'est important, même là qu'on en parle dans ce genre de choses en radio et tout, il faut mettre le doigt sur ça, et que ça soit d'une manière un peu forte ou d'une manière douce et humoristique comme toi avec le cancer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut encore plus ce genre de choses. Moi après, encore une fois, on parle de légitimité, je me sens pas très légitime à vachement politiser mon discours, à raconter certaines choses que je n'ai pas vécues, mais ça change rien, on peut quand même... indirectement parler de ce genre de choses et avoir un message qui peuvent toucher certaines personnes qui ont vécu des choses que moi j'ai pas vécu parce que voilà, c'est universel, c'est des notes donc il faut je comprends.
Et puis surtout en tant qu'artiste vous êtes un peu aussi nos fenêtres sur le monde donc moi je trouve ça important d'avoir si ce n'est un art politique au moins un art politisé comme tu dis.
Ouais, quelque chose qui relate, pas forcément qui juge ou voilà, mais quelque chose qui relate. Il faut...
ne demande pas d'être révolutionnaire et de faire la révolution.
Voilà, et c'est vrai que c'est pas forcément bien d'écouter tous les jours ça aussi dans le tram, des musiques allons niquer le monde et tout, mais il faut un quelconque message, il faut quand même un petit truc. Je trouve que c'était un droit avant, aujourd'hui pour moi j'estime que c'est un devoir.
Puis ce qui est intime, comme tu le dis, ça me touche beaucoup, ton histoire avec le cancer, c'est que ce qui est intime devient politique en fait. C'est un message que tu as envie de délivrer et je trouve ça très beau, bravo d'avoir fait ce spectacle.
Tu voulais me dire quelque chose, Laurent?
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Mathis par rapport à la légitimité. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu des épreuves pour en parler dans notre art à partir du moment où ça nous touche et qu'on a envie de partager ça avec les spectateurs, les auditeurs, le public. Il faut le faire absolument, quoi.
Carrément. Et c'est pour ça qu'on est là aussi.
Et oui, c'est ça, c'est que même si on n'a pas forcément vécu ce genre de choses, c'est bien d'avoir des médias ou des choses qui nous font prendre compte de ce qu'il y a autour.
Bah ouais, de pouvoir se raconter, échanger, être dans le partage. Puis les thèmes, il y en a un paquet.
Ouais.
Mais il y a cette nécessité de dire des choses, raconter et s'exprimer, quoi. Je sais pas où ça se situe, à quel point c'est fort ou pas en vous, la nécessité de faire jaillir...
Alors, elle est très forte en soi, mais je la manifeste pas très fortement. J'essaie de garder quand même quelque chose de très cool. Comme je dis, c'est du divertissement, moi c'est la musique, je veux que les gens se sentent bien. Évidemment qu'il y aura des petites phases, des petits messages comme si, voilà. Mais ça se manifeste pas forcément, mais c'est un besoin, c'est quelque chose qui vibre, quoi. Même en dehors de la musique, c'est... Ouais, il faut en parler, quoi.
Pour toi, c'est plus un moteur.
Ouais, exactement.
Qu'une finalité en soi.
Exactement, c'est exactement ça.
Ok. Et toi, Laurent?
Moi, c'est un peu les deux.
Ok.
Par exemple, aujourd'hui, dans mon écriture théâtrale, j'ai toujours un message vraiment précis. Je commence d'ailleurs toujours par ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quel est le fond de ce spectacle? Et après, la forme, elle vient beaucoup plus facilement, donc...
Voilà. Super. Et allez, on va aller conclure... cette belle émission avec vous par le mot de la fin. Et le mot de la fin, les amis, c'est si vous deviez donner un seul mot comme ça à la volée, bing, le premier truc qui vous passe par l'esprit pour définir votre rapport à la création, ce serait quoi?
J'hésiterais entre infantile et spontané. Parce qu'infantile, enfin, c'est par rapport à l'enfant, pas forcément très quelque chose d'enfantin, mais et la spontanéité, ouais. Je dirais un mélange des deux. J'ai pas choisi un mot, je suis horrible, désolé.
Tu veux qu'on comment on pourrait dire ?
Non, spontanéité, je pense plus de la spontanéité.
Spontafile.
C'est très bizarre, j'aime bien. J'adore, on va rester sur ça.
On peut créer un
mot. Spontafile. Oui.
Et toi, Laurent ?
Moi, j'ai envie de dire passionné.
Passionné.
Et oui.
Ouais. Allez, spontafile et passionné pour Laurent et Mathis. Et ben, un grand merci à vous.
Merci, merci, à très gentil.
Pour nous avoir partagé un morceau de vos vies, de vos pensées. Et un grand merci à Oriane Castan à la réalisation. Et on se retrouve très bientôt sur les chemins de la création. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça ?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.